Figaro Radio.
Le club, le Figaro Politique.
Yves Tréhard.
Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Le Figaro Magazine qui, ce week-end, a titré...
Alors, on a parlé des chambres de haut.
Un grand sujet qui nous est cher et qui revient à intervalles réguliers dans le journal. On vous met à jour de vos chambres d'hôtes. Célestine Gentilhomme, bonjour.
Vous êtes
au service politique du Figaro, ainsi que Louis aux haltères, ainsi que un grand professeur d'histoire, normalien, s'il vous plaît.
Non, je t'ai plus. La coupe est pleine.
Jean Garrigue. Alors, première question, historiquement, ça c'est une question pour vous. Pourquoi tout le monde boude cette élection ?
Bon, il y a des tas d'explications que vous connaissez aussi bien que
moi. Ces élections européennes.
Hein. On peut les rappeler. D'abord, il y a cette polarisation de la Ve République sur l'élection présidentielle qui fait que les autres élections, les élections intermédiaires, sont quand même moins courues globalement.
De moins en moins courues.
Y compris les législatives, qui a priori ont un rôle important. Il y a le fait que ce sont des élections relativement récente dans notre histoire. Ça commence en 1979, l'élection du Parlement européen au suffrage universel. Ça aussi, il faut une accoutumance avec les élections.
65% de participation cette année-là,
alors, 79. C'était déjà beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il y avait un effet de surprise aussi qui pouvait mobiliser les électeurs. Il y a le fait que ces élections sont souvent très mal comprises dans leur mode de fonctionnement, dans leur organisation, qui a changé au fil des années. Ça peut jouer là aussi. Il y a un fait majeur aussi, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'est ce Parlement européen, à quoi il sert, et on a plutôt, et de plus en plus, une vision négative de ce que sont les élections européennes et l'Union européenne. D'où, d'ailleurs, la montée en puissance d'un parti de protestation et de critique qui est le Rassemblement national, ex-Front national.
Alors, Guillaume, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de tête d'affiche, en fait.
Hein. Voilà.
Pas, c'est pas gentil pour eux, mais c'est vrai qu'il n'y a pas les grands noms. Alors, jadis, daguerre, c'était un peu le cas, mais c'est de moins en moins le cas.
C'est vrai, mais du coup, il y avait parfois des personnalités politiques de premier plan qui se présentaient, qui ensuite démissionnaient pour revenir à leur mandat national. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'encourageait pas l'attachement aux institutions européennes. Je pense que... Alors, il y a moins un déficit d'incarnation aujourd'hui, quand même. Alors, si on fait la liste, c'est évidemment le cas pour Valérie Ayer, que presque personne ne connaissait jusqu'à ce qu'on nommait tête de liste, qui, bien qu'elle soit députée sortante, n'était pas une personnalité politique très visible, et qui donc est la tête de liste de la majorité. Mais un Jordan Bardella, c'est l'exemple le plus caractéristique. Lui, pour le coup, c'est déjà un peu une vedette. Je pense que ce déficit d'incarnation dont vous parlez, oui, c'est un problème global, je dirais, du Parlement dans son ensemble. Qui est capable de dire le nom de la présidente du Parlement européen ? Moi, je lis ma note parce que Roberta Metsola, pour être honnête, je n'ai pas le réflexe quotidien d'aller voir quelle est son action, à quoi elle sert. Et c'est, à mon avis, un vrai problème, c'est que l'Europe ne s'incarne pas. Elle ne s'incarne ni dans les personnes, ni dans les partis. Parce que le nom des partis au Parlement européen, c'est incompréhensible pour un Français. Le PPE, le SED, il n'y a que les Verts. Alors les Verts, ils sont verts à Bruxelles, ou rouges d'ailleurs, parfois, ça dépend. Mais en tout cas, ils s'appellent verts au Parlement, comme ils s'appellent verts au Parlement national, comme ils s'appellent verts au Parlement européen. Mais sinon, c'est une espèce de nébuleuse, et c'est vrai que ça ne donne pas envie.
Alors la démocratie européenne en souffre ?
Oui,
parce que c'est pas propre à la France.
Il y a quand même quelque chose. C'est pas propre à la France. Il y a quand même quelque chose de contre-intuitif, c'est que tout ce qu'on dit là est vrai, mais c'est la seule élection européenne où la participation s'est remise à augmenter depuis 15 ans. Alors, ça, c'est assez notable. Le dernier grand choc d'abstention sous la Ve République, c'était les régionales de 2021. Alors, c'est départemental et régional. Donc là, c'est encore pire pour savoir à quoi servent les gens qu'on va élire. On est en pleine sortie du Covid. Il y a 2/3 des gens qui ne vont pas voter, 2/3 des inscrits qui boudent les urnes. Aux dernières élections européennes, notamment en 2019, il y a eu un sursaut de participation. Alors vous me direz, on part de très bas, on arrive à 50% de gens qui se déplacent.
De 45 à 50%.
Ouais, exactement, on gagne quelques points de participation. Mais en fait, je pense que si cette élection, elle a toujours été boudée par les Français, c'est évident. Mais si peut-être en ce moment, la participation se stabilise, là dans le rolling IFOP pour le Figaro, on est à 46% d'indice de participation. Souvent, ça augmente avec la campagne parce que des gens découvrent qu'il y a une élection européenne le 9 juin et se disent que peut-être ils vont aller voter. Peut-être que le fait que ça reste une élection nationale, puisqu'il n'y a plus de tête de liste régionale, comme on a eu à certaines éditions des élections européennes, finalement, ça peut quand même polariser des électorats, parce qu'en fait, les enseignements sont nationaux aussi. Certes, on vote pour des députés européens, mais ce qui vient d'abord en tête des électeurs, c'est est-ce qu'on sanctionne la liste Macron ? Est-ce qu'on vote pour la liste Bardella ? On a des têtes d'affiche, on a surtout des partis, donc c'est vraiment un vote de positionnement, et puis c'est un petit peu un vote défouloir, parce qu'on pense que ça n'emporte pas finalement d'enjeux très importants, et que donc pour donner son avis à un moment donné, et y aller sans trop penser aux conséquences que ça emporte après, eh bien c'est le moment. On n'en reste pas moins que, oui, la moitié des gens, sûrement, peut-être plus, ne vont pas aller voter à cette élection européenne, et que ça pose question pour la légitimité démocratique de cette institution européenne, parmi d'autres, qu'est le Parlement européen.
Alors justement, Célestine, je sais que vous travaillez pour demain sur des papiers qui ont trait justement à cette abstention. Quels sont les... aujourd'hui, comme le disait Louis, c'est un référendum pour ou contre Macron,
cette élection ? Oui, en fait, tout le problème, c'est qu'il y a une difficulté pour le camp présidentiel, notamment à mobiliser son propre électorat, sa base électorale, ce qui avait déjà été le cas, si on s'en souvient bien, en 2014 pour les socialistes, parce que c'est difficile d'avoir, sur des élections européennes, un vote de soutien au gouvernement. C'est plus un vote expressif, un vote de sanction, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le profil type de l'abstentionniste. C'est à peu près le même entre la présidentielle et les européennes. Souvent, c'est un jeune. Là, sur le Rolling IFOP qu'on reçoit tous les jours pour le Figaro, on est à 22% seulement de jeunes qui disent être prêts à aller voter le 9 juin prochain, ce qui n'est quand même pas beaucoup.
Pas bon pour le Rassemblement national, parce que c'est un vote jeune, le Rassemblement national.
Oui, mais Bardella a les jeunes qui votent avec lui. Ce qui fait, et d'ailleurs, il domine largement sur la question du vote des jeunes. Mais on avait vu, notamment en 2019, qu'il y avait eu ce sursaut de participation, notamment grâce aux jeunes. Parce qu'il y avait ces marches sur le climat, il y avait la question de l'écologie qui était placée au centre de la campagne, ce qui avait donné un bon score pour Yannick Jadot. Aujourd'hui, en termes de mobilisation de cet électorat jeune qui est abstentionniste, on voit peu de sujets qui peuvent les pousser à aller aux urnes.
D'accord. C'est ça le... Alors que, normalement, eh bien, il devrait être...
Oui.
C'est un énorme paradoxe.
Heureux.
C'est un énorme paradoxe. De la même manière que les partis écologistes devaient être largement en tête dans tous les sondages et dans toutes les élections, puisque l'écologie, c'est l'idée aujourd'hui, j'allais dire universelle, dont tout le monde parle et que tout le monde reconnaît, eh bien, il est quand même troublant de voir que cette idée européenne, qui devait être justement quelque chose de plébiscité par les jeunes, ne, au contraire, les plébiscite, mais dans le sens négatif, c'est-à-dire pour la refuser, pour la récuser, autour du candidat du Rassemblement national, il y a là, je dirais, un déficit pédagogique, une faute des Européens et des Européistes qui n'ont pas su faire aimer l'Europe. Alors que l'Europe, au fond, elle est intégrée. Moi, je voyais mes étudiants Erasmus, pour eux, l'Europe, c'est quelque chose de quotidien,
ils
c'est quelque
vivent.
Chose qui le pose même pas question, et on s'aperçoit que lorsqu'il s'agit d'aller sur le terrain politique, pour des tas de raisons, parce que les enjeux, on le voit bien, sont aujourd'hui des enjeux qui sont nationaux, et à travers l'élection européenne, on parle des enjeux nationaux, ben vous avez cette désaffection qui est paradoxale de toute une jeunesse par rapport à l'élection européenne.
Je pense qu'il y a une explication à ça, mais qui d'ailleurs est assez générale, quelles que soient les générations, c'est qu'il y a un sentiment... peut-être mauvais, peut-être faux, mais que finalement l'Europe, on ne peut rien y faire. Il y a une forme de fatalité européenne. C'est-à-dire que, en gros, il n'y a pas vraiment de contrôle démocratique, d'abord parce qu'il y a un très grand nombre de pays, ensuite parce que c'est très compliqué, enfin parce que le vrai pouvoir, il est entre les mains des technocrates et pas des élus. Et évidemment, ce qui a accrédité ça, à mon avis en France, même si c'est dans l'inconscient collectif, c'est le référendum de 2005. Les Français ont dit, ben nous, on ne veut pas de cette Europe telle que vous nous la proposez,
le
projet de constitution européenne. Résultat des courses, 2 ans après, traité de Lisbonne, la constitution est passée sans le dire. Et donc, sans doute qu'un grand nombre de Français se sont dit, bon bah ok, on a donné notre avis sur l'Europe, on n'en a pas tenu compte, alors maintenant qu'on ne compte plus sur nous.
Oui. Louis, on retrouve aussi sur l'Europe, finalement, et dans le débat qui de cette campagne électorale, tous les thèmes nationaux. Quoi.
Oui, comme d'habitude.
Ça ne change rien. Quoi.
Alors, et chacun essaye de choisir son terrain, ça aussi. Ouais. C'est le grand classique en campagne électorale, c'est-à-dire que le camp Macron, à commencer par le président, voulait absolument aller sur le terrain géopolitique, de la guerre en Ukraine, pour profiter à nouveau de ce qui avait marché en 2022, le statut de chef de guerre, de capitaine, dont, qu'on ne change pas en pleine tempête. Ça avait marché en 2022 au point qu'il n'y avait quasiment pas eu de campagne présidentielle, tellement le rouleau compresseur du choc de la guerre en Ukraine avait écrasé tous les autres enjeux de la campagne présidentielle. Maintenant, on est quand même plus loin. On s'est habitué malheureusement à la guerre en Ukraine, puisque c'est une guerre qui dure et qui va sûrement encore durer. Et puis, chacun essaie de choisir son terrain. On voit que ça ne prend pas trop sur la géopolitique. De manière générale, la campagne ne prend pas trop parce qu'on en est encore éloigné. Mais évidemment que le Rassemblement national voudra plutôt aller sur ses moteurs traditionnels que sont l'insécurité et l'immigration. En ce moment, il est servi d'ailleurs par l'actualité, la violence, au point que Gabriel Attal a dû répondre en urgence là-dessus. Les écologistes ont perdu effectivement ce qui les avait servi en 2019, où l'agenda politique était très orienté vers l'écologie. Aujourd'hui, il y a une sorte de retour de bâton. On s'aperçoit qu'en fait, quand on fait des mesures écologiques, ça accentue des inégalités sociales et qu'il y a des gagnants et des perdants, mais surtout des perdants, et que ces perdants pourraient aller s'exprimer dans les urnes. Donc c'est beaucoup moins présent à l'agenda politique, et c'est mathématique, quand on parle moins d'écologie, les écologistes gagnent moins. Ça va être comme ça sûrement le 9 juin. Donc
alors, vous savez
on a plusieurs campagnes parallèles dans des couloirs,
ouais.
Et pour l'instant, il n'y a pas un grand thème qui domine la campagne, alors que chaque camp essaye d'imposer le sien, évidemment. Il y a l'Europe aussi. Macron voulait parler d'Europe en expliquant que ce qu'il avait plaidé dans son discours de la Sorbonne en 2017 a été accompli. Mais du coup, il prend un risque. Il pose la question aux gens en disant « Est-ce que vous êtes d'accord avec cette Europe-là ? Cette Europe selon les intuitions, les idées d'Emmanuel Macron ?» Parce que l'Europe, effectivement, elle est intégrée dans la tête des gens. Les gens l'acceptent. Il y a une petite minorité en faveur d'un Frexit en France. Donc le sujet n'est plus là. C'est plutôt comment on conduit l'Europe, vers quoi elle est aiguillonnée. Est-ce que Emmanuel Macron a vraiment intérêt à pousser énormément le curseur sur ce plan-là? Je crois qu'il va le faire cette semaine, mais nous verrons la suite jeudi.
Alors, vous savez ce qu'on dit? On dit que les années en 9 sont des bonnes années pour les écologistes, mais que les années en 4 sont des mauvaises années pour les écologistes.
C'est vrai.
On va voir si ça se confirme cette année. La politique, c'est ça aussi. Ouais. Hein, c'est des symboles.
Deux secondes pour ajouter quelque chose de presque contre-intuitif, c'est ce qui se passe avec la campagne de Raphaël Glucksmann.
Oui.
Parce que la caractéristique de Raphaël Glucksmann, justement, c'est de porter le débat autour d'un projet européen. C'est-à-dire qu'il, lui, cristallise quand même autour de ce qu'est son ambition européenne, une Europe plus démocratique, plus sociale, peut-être plus proche des citoyens, plus écologiste, etc. Et finalement, cette campagne, pour l'instant, elle a l'air de plutôt prendre. Mais il y a peut-être d'autres explications. On y viendra tout à l'heure en parlant notamment de Jean-Luc Mélenchon, qui explique cette poussée du candidat, on va dire, Parti socialiste et de place publique. Mais c'est intéressant parce que il me semble, dans le brouhaha ambiant, que s'il y a quelqu'un qui aujourd'hui essaie de recentrer vraiment le débat sur des enjeux proprement européens, c'est Glucksmann, et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ce faisant, je pense qu'il reprend d'ailleurs toute une tradition de la social-démocratie, en fait, du Parti socialiste, qui a toujours été très, très européiste, et que, en fait, c'est cet électorat-là qui revient vers lui, mais on en reparlera sûrement tout à l'heure.
Célestine, c'est une élection qui se présente comme une élection de mi-mandat ?
C'est en tout cas ce qu'aimerait installer Jordan Bardella.
Ouais.
D'ailleurs, c'est toute sa stratégie de nationaliser le scrutin, hein, Louis en parlait tout à l'heure. Parce que c'est ce qui mobilise aussi, et eux-mêmes le reconnaissent, pour mobiliser l'électorat RN, il faut dire que c'est un scrutin contre Emmanuel Macron et l'Europe de Ursula von der Leyen. C'est ça qui est mobilisateur. Maintenant, je pense que tout l'enjeu pour cette campagne qui doit accélérer, qui doit encore débuter, parce que tout le monde dit les Français n'ont pas encore la tête aux européennes, eh ben, il faut faire campagne. On avait vu en 2022, aux législatives notamment, puis à la présidentielle avant, mais le calcul électoral qui a été fait notamment par le camp présidentiel de ne pas faire campagne, de faire une campagne à minima. Aujourd'hui, si on veut espérer que les Français votent, eh ben, il faut faire campagne. Et je pense qu'ils ont compris aussi dans le camp Macron que la stratégie ne pouvait pas marcher cette fois-ci de ne pas faire campagne. Emmanuel Macron l'a saisi puisqu'il va faire un discours.
Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on est soumis, eh bien, à l'équité de temps de parole de nos hommes et de nos femmes politiques. C'est pour ça que je ne peux pas vous montrer beaucoup d'images. En revanche, pour lui, je peux vous en montrer, puisqu'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Et à l'élection européenne, pardon. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Donc, on va se demander s'il a une bonne... si sa stratégie peut être, sinon gagnante, au moins payante. Il multiplie les sorties. On va l'écouter et on va écouter... un de ses camarades, un de ses faux amis politiques.
Nous connaissons l'histoire de notre pays. Et c'est parce que nous la connaissons que nous nous méfions, pas seulement des fascistes, mais plus encore peut-être des lâches. Des faibles ceux qui, dans la chaîne interminable du mal, signent un papier pour organiser un convoi SNCF, qui signent des papiers pour donner des ordres à la police. « Moi, je n'ai rien fait, disait Eichmann. Je n'ai fait qu'obéir à la loi telle qu'elle était dans mon pays. » Alors ils disent qu'ils obéissent à la loi et ils mettent en œuvre des mesures immorales qui ne sont justifiées par rien ni personne.
Mais il s'est expliqué. Il a dit qu'il faisait référence à Hannah Arendt, à la banalité du mal, aux mécanismes qui conduisent certains à aller à l'odieux. Est-ce que ces explications vous ont convaincu ?
Mais c'est bien la raison pour laquelle je ne me retrouve plus du tout dans Jean-Luc Mélenchon, puisque ses propos excessifs discréditent tout le reste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il compare un professeur d'université à un nazi. Il m'a moi-même comparé à un nazi. Il est discrédité, je peux rien dire. C'est indéfendable ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, indéfendable.
Alors, des petits éléments de contexte, il faut dire que Jean-Luc Mélenchon, effectivement, veut organiser des meetings et des réunions dans les universités ou dans des lieux publics, des réunions à caractère, pour certaines de ces réunions pro-palestiniennes, pour d'autres, volontairement très, très agressives contre les... contre les autorités françaises. Alors, vous voyez, il sort Eichmann, il sort le Troisième Reich. Enfin, il n'hésite pas sur le vocabulaire. Et là, il se met une partie de la classe politique à dos, une grande partie, sauf, vous avez vu, ces députés qui sont comme un seul homme derrière lui. Louis Osalter, qu'est-ce qu'il veut faire ?
En fait, c'est assez classique dans l'électrocardiogramme, j'allais dire, de Jean-Luc Mélenchon, dans sa vie politique. Entre deux élections présidentielles, il va à fond dans la conflictualité. On a déjà connu ça, sous les quinquennats précédents.
Il voulait mettre tout le monde sur les Champs-Élysées.
Ouais, notamment. Puis rappelez-vous de La République, c'est moi, de toute la série d'outrances qu'on avait également connues il y a plusieurs années. Et souvent, à l'approche de la campagne présidentielle, il se fait plus fédérateur, il élargit son discours pour convaincre la gauche dans son ensemble. D'ailleurs, ça n'avait pas trop mal fonctionné à la dernière présidentielle, où il est arrivé troisième, en arrivant à agréger différentes composantes de cet électorat de gauche, y compris un électorat qui n'est pas forcément fan du bonhomme, mais pour qui le vote utile, c'était devenu Mélenchon. Là, on est reparti dans la phase où, effectivement, il conflictualise, il saisit toute occasion pour dérapage, j'aime pas le mot, mais en tout cas pour aller dans l'outrance, pour aller dans l'exagération et pour enflammer le débat public. Alors qu'est-ce qu'il fait en ce moment ? Il est évident qu'il y a une stratégie communautariste à l'œuvre en ce moment à LFI, c'est pas nouveau, mais ils veulent jouer sur l'impact de la guerre à Gaza, des bombardements là-bas. En se disant, en faisant ce calcul simpliste, tiens, les électeurs musulmans s'identifient aux Palestiniens, donc parlent-leur de Gaza, et ils vont se rendre aux urnes. Je ne suis pas persuadé que ça marche à une élection européenne où, déjà, on l'a dit, la moitié des Français votent, et en général, ce sont les classes les plus aisées qui vont voter. Il y a une espèce de clivage social. Donc, je ne suis pas sûr que les électeurs des quartiers populaires se déplacent en masse aux élections européennes. Mais bon, ils tentent cette stratégie parce qu'ils pensent qu'il y a des réserves de voix qui sont ici. Et puis ensuite, il y a le fait de préempter la place à gauche pour la présidentielle. Il y a quand même un adversaire qui s'appelle François Ruffin, dans son camp, son équipe vient de publier un sondage réalisé par l'Institut Cluster 17
qui montre le patron que Ruffin, est vu déjà ici.
Qui montre, un, que Ruffin peut se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen, et deuxièmement, qu'il peut battre Marine Le Pen dans un second tour. Et le même sondage montre que Jean-Luc Mélenchon, un, ne passe pas le premier tour, et deux, en cas de second tour, est battu par Marine Le Pen. Et il est battu largement, parce que Mélenchon, il polarise beaucoup plus contre lui que Marine Le Pen. Quelque part, c'est devenu le nouveau Jean-Marie Le Pen dans le rejet qu'il y a dans une grande partie de la population et de la classe politique à son égard, parce que ses outrances, parce que ses exagérations, parce que le personnage qu'il est devenu. Donc la stratégie pour exciter quelque part une réserve électorale provisoire, pourquoi pas, mais pour gagner une présidentielle, c'est absolument contre-productif.
D'accord avec ça, Guillaume ?
Oui, je suis assez d'accord. Je pense que Mélenchon met en application la thèse de ce livre qu'il a maintenant il y a une quinzaine d'années, mais qui est essentiel pour comprendre ce que c'est que le populisme, qui sont les ingénieurs du chaos de Giuliano D'Ampoli, et il raconte, il explique que le ressort profond...
Celui qui a écrit le match du Kremlin.
Absolument, c'est aussi lui qui a écrit le match du Kremlin, et il raconte que le ressort profond du populisme, c'est la colère, c'est la rage. C'est-à-dire que... Et donc, qu'est-ce que fait Mélenchon ? Il exploite ça à fond. Alors, quitte peut-être à se recentrer ensuite, mais ça me fait un peu penser au Rassemblement National, sauf que eux, ils s'étaient partagé le rôle en famille, c'est-à-dire que la radicalité absolue, c'était papa, et maintenant, il y a Marine Le Pen qui apparaît comme presque modérée. Je ne suis pas sûr que la, la même personne puisse faire les deux. Mais bon, le spécialiste des hommes providentiels, c'est Jean Garrigue, ce n'est pas moi. Ouais. Mais en tout cas, l'idée, c'est à tout prix de marquer les esprits. Et ensuite, il sera toujours temps de s'apaiser quand l'échéance arrivera, l'échéance présidentielle.
Il perd des électeurs, à votre avis, en faisant ça ?
Il en a...
Actuellement ?
À mon avis,
actuellement. Est-ce que le succès que vous décriviez tout à l'heure, relatif quand même, de Glucksmann, s'explique par l'attitude de Mélenchon ?
À mon avis, partiellement. Il faudrait vérifier, les instituts de sondage nous le diraient, mais Glucksmann gagne sûrement sur le centre-gauche qui est revenu du macronisme, mais il gagne aussi, à coup sûr, sur une partie de cet électorat ex-NUPES qui s'est retranché de par les outrances, de par la stratégie de conflictualité, le moment conflictuel, puisqu'il s'agit de moments comme ça, de Jean-Luc Mélenchon. Son discours, on parle d'homme providentiel, ressemble trait pour trait à ce qu'était celui du général Boulanger il y a plus d'un siècle, oui, dans les années 1880. C'est une vieille histoire, qui d'ailleurs a été relayée aussi par l'extrême droite à certains moments, dans les années 30, ou par Jean-Marie Le Pen. On procède par outrance, par provocation, pour cranter comme ça un électorat, se préparer à une échéance. Alors, Jean-Marie Le Pen, lui, ne préparait pas l'échéance présidentielle. Et on sait, il est vraisemblable qu'à proximité de 2027, on va avoir un autre discours de Jean-Luc Mélenchon, sauf que là, il y a une nouvelle donnée, mais vous l'avez dit, c'est François Ruffin. Et ouais. On a l'impression qu'avec ce qui s'est passé au sein de la France insoumise, un bloc derrière François Ruffin, avec Clémentine Autain, Raphaël Garrido et son époux dont j'ai oublié le nom,
pourtant,
c'est un prof d'histoire, Alexis Corbière, on a quand même là un frémissement de contestation du leader Maximo. Et là, ça devient quand même problématique. Donc la stratégie communautaire, elle a payé pour les élections de 2022. Je ne suis pas sûr qu'elle paye effectivement pour des élections européennes. Je suis même quasiment sûr que non. Et en revanche, elle le retranche d'une partie de son électorat et surtout, elle le coupe de ses lieutenants. Moi, je pense que là, il va... De toute manière, on sait bien qu'on est dans une période là, de recomposition dans tous les camps et notamment la France insoumise, me semble-t-il.
Oui, mais Célestine, il est quand même sûr de lui. C'est-à-dire qu'il fait comme il a fait dans le précédent quinquennat, c'est-à-dire qu'il avait été extrêmement virulent contre le pouvoir, quasi outrancier. Là, il en rajoute une couche. Et néanmoins, il était à 600 000 voix du deuxième tour.
Hein. Ouais, ça, c'est un excellent tribun, on peut lui reconnaître au moins. Là, je pense, sur la séquence notamment de l'Université de Lille, de la conférence annulée, il a franchi un cap en termes de violence verbale qui est assez grave. Mmh. C'est-à-dire que quand il parle du préfet qui a fait cet arrêté pour interdire la manifestation pour des raisons de troubles à l'ordre public, quand il parle du président de l'Université de Lille...
Il compare à Eichmann.
Oui, et qui dit de capitular en faisant référence au régime de Vichy, c'est quand même d'une gravité sans nom. Et je comprends qu'à gauche, il se désolidarise de plus en plus, mais je pense que la stratégie maintenant, il a compris, comme le disait Louis, que 2027, il était dans une position assez fragile. C'est-à-dire qu'au second tour, il voit que face à Marine Le Pen, son plafond de verre est quand même assez rabaissé, que d'autres pourraient la battre et que même à gauche, on est prêt à voter Édouard Philippe pour battre Marine Le Pen. Donc là, il est en train de retracer des lignes de clivage aussi à gauche. C'est difficile pour des socialistes d'aller s'afficher avec un Jean-Luc Mélenchon qui tient des propos comme ça. C'est-à-dire qu'il a compris que l'Union se ferait sans lui. Il a compris, il a parlé de Jérôme Gage, de lâche. Donc il comprend que la famille politique de la gauche est déjà dos à lui. Donc là, il trace son sillon pour 2027 et il éclipse au passage Manon Aubry, qui est la tête de liste pour les européennes. On n'a pas parlé d'elle une seule fois ce week-end. Mm-hmm. Et en plus, il a mis en orbite Rima Hassan, qui est septième sur la liste de LFI, qui a d'ailleurs été convoquée pour apologie du terrorisme et qui a l'air de prendre la place de Manon Aubry, parce qu'on ne parle que d'elle. Mm-hmm. Donc ça doit faire grincer des dents en interne.
Alors, deux choses. La première, est-ce que, quand je parle de stratégie payante, finalement, il sait, Jean-Luc Mélenchon, que l'électorat populaire de gauche, il l'a perdu, il est parti chez Marine Le Pen, et qu'aujourd'hui, l'électorat qu'il faut aller chercher, qui est très abstentionniste d'ailleurs, c'est un électorat communautaire, arabo-musulman, voilà.
Oui, c'est le pari qu'il fait. Et certains considèrent que ça peut être un pari de moyen terme gagnant compte tenu de ce qu'est l'évolution de la démographie française et de l'immigration. Alors, personne ne l'explicite comme ça parce que on a derrière une idée de grand remplacement et de tout cela, mais je pense que c'est une première dans la vie politique française. Alors, si, il y avait des démocrates chrétiens sous la 4e République, mais on va dire que le christianisme était tellement intégré à la société française qu'il n'apparaissait pas comme étant hors système. Alors que là, chez Jean-Luc Mélenchon, c'est de plus en plus clair.
C'est ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, absolument. Ensuite, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est un bon ressort ? Il me semble que c'est se tromper sur ce qu'est la grande majorité des Français musulmans, des électeurs, qui, eux, se souhaitent être des Français comme les autres. Et donc, en prenant le risque de cette espèce de séparatisme, je pense que Jean-Luc Mélenchon peut commettre une erreur. Alors, il n'y a pas beaucoup de sondages qui sont faits. C'est vrai qu'à la présidentielle, c'est de très loin... lui qui est arrivé en tête dans le vote musulman d'après les sondages. C'est vrai que un grand nombre de députés La France Insoumise, à commencer par son premier cercle, sont des gens qui sont élus de départements comme la Seine-Saint-Denis, où il y a un grand nombre d'électeurs qui sont probablement, même s'il n'y a pas de statistiques ethniques en France, issus de communautés musulmanes. Voilà, mais ça, c'est une stratégie de niche, à mon avis. Mais quand on veut être président de la République, il faut réussir à transcender tout ça. Est-ce qu'on peut passer d'un communautarisme aussi étroit et virulent à une stratégie de rassemblement ? Honnêtement, je vois pas. Je trouve que ça ressemble à une impasse, quand même.
Plus ça va aller, plus il va continuer sur ce terrain-là, plus la gauche, qui est déjà très fracturée, risque encore de se fracturer davantage et de se recomposer hors de lui.
Oui, alors, d'autant que le score de Raphaël Glucksmann va beaucoup conditionner la suite, puisqu'il y a des bonnes fées, qui en fait sont de fausses bonnes fées, qui se penchent sur le berceau Glucksmann, pour dire, mais tiens, s'il fait un bon score, on va ressusciter la social-démocratie. Parmi ces gens, il y a François Hollande, notamment, Bernard Cazeneuve, qui gravit ce pas très loin. Voilà. Il y a des gens qu'on connaît depuis longtemps et qu'on a déjà vus aux responsabilités, qui se disent ça va être à nouveau être notre tour, qui, à mon avis, font des projections un petit peu rapides sur un score qu'on ne connaît pas encore.
Et qui s'appelle.
S'il perd dans les sondages, n'est pas si haut que ça.
François
H. H. On dira. Il a demandé l'anonymat, on verra. Donc, ça va jouer dans la recomposition à gauche, le fait que, effectivement, est-ce que, après Emmanuel Macron, il y a notamment une partie de son électorat qui vient de la gauche, qui se dit il y a une option de centre-gauche qui pourrait exister et qui a besoin de quelqu'un, d'une incarnation. Et si c'est le cas, Hollande ou pas, je mets pas François Hollande dans l'équation, est-ce qu'on a un retour à ces deux gauches, ou une gauche radicale emmenée par Jean-Luc Mélenchon, mais qui ne gagnera pas parce qu'elle ne fait pas la jonction avec un centre-gauche qui n'existe plus depuis 2017, parce qu'Emmanuel Macron est parti de là. En 2017, Emmanuel Macron était le candidat du centre-gauche. Il a ridiculisé Benoît Hamon à l'époque, qui s'est groupuscularisé quelque part et qui a fait un score ridicule. Là, l'espace macroniste sera libre et il laisse une partie à gauche et puis une partie à droite, parce qu'il ne faut pas non plus négliger le nombre d'électeurs de droite, de gens passés par Sarkozy, même par Fillon, qui se sont ensuite portés sur Emmanuel Macron, notamment en 2022. Voilà, il y a tout cet espace central, comme l'appellent les macronistes, qui n'est pas sûr de le rester, parce que ça suppose d'avoir une personnalité, une incarnation qu'on ne connaît pas encore, même si Édouard Philippe tente de préempter au moins une grande partie droite de cet espace. Voilà, est-ce que la gauche peut, le centre-gauche peut se reconstituer à partir de là ? On le saura après le 9 juin. Attendons d'abord de voir le score de Raphaël Glucksmann, si vraiment il continue à progresser, s'il arrive à convaincre un nombre croissant d'électeurs de gauche.
Alors, il y en a un dont on connaît le score, je ne sais pas si on le connaît, mais en tous les cas, on nous prédit un score important, au-delà de 30%, ça serait une première. Je crois qu'il n'y a que Simone Veil qui a fait, lors d'un scrutin de 1989, si ma mémoire est bonne, pour un axe central, justement, là, elle avait fait un score aux européennes qui était supérieur à 30%. Alors lui, c'est Jordan Bardella, et il a déclaré, si jamais je gagne, il dit ça comme ça, très sûr de lui, le jeune homme, je demande la dissolution. Mais est-ce qu'il a intérêt à la dissolution, Jean Garrigue ? Est-ce que le Rassemblement National, est-ce que sa patronne a intérêt à la dissolution ?
Alors, en tout cas, ce serait une première, une dissolution après les élections européennes. Bon, oui. Ce serait quelque chose d'un peu surréaliste. Il n'y a aucune raison qu'on lui concède cette faveur. Est-ce qu'il y a intérêt ? A priori, non. Pour des raisons, d'abord, de rapports de force électoraux. On ne sait pas ce que donnerait une nouvelle élection. Il y a des sondages qui courent un petit peu partout, qui prédisent une nette poussée du Rassemblement national, mais sans doute pas au point
d'avoir... législatives. Hein.
Aux législatives, mais sans doute pas au point d'avoir une majorité absolue, ce qui veut dire des accords, des alliances, avec qui... je ne suis pas sûr aujourd'hui que les LR soient prêts à contracter des alliances avec le Rassemblement national, vu les amabilités qui s'envoient les uns les autres. Bon, l'histoire nous a montré que beaucoup de choses étaient possibles. Mais il y a aussi, évidemment, et c'est pour ça que vous le soulignez, la perspective de l'élection présidentielle. Pourquoi prendre ce risque aujourd'hui de la dissolution, d'une majorité fragile, des incertitudes, d'une cohabitation, alors qu'a priori, pour 2027, les augures semblent très positifs. On se dit que ça risque de fonctionner pour Marine Le Pen. Pas que c'est mon souhait, mais en tout cas, il semblerait que la voie soit plutôt favorable. Donc, il y a quand même beaucoup d'aléas, beaucoup de risques là-dedans. Mais ça fait partie aussi de cette campagne de Jordan Bardella, de petites phrases, et surtout de l'installation, c'est ça le credo, je pense, pour les gens du Rassemblement national, d'installer cette perspective d'une alternance, cette perspective du pouvoir. Et donc, on utilise aussi cette idée en disant bon, on vous lance un petit défi, là, on même pas peur. Nous, on veut la dissolution, on va gagner les élections législatives. Donc c'est ça, c'est plus pour moi une stratégie de préparation, justement, de ce que va être ensuite la présidentielle.
D'accord avec ça, Guillaume ?
Oui, effectivement, je pense aussi que c'est une idée de cheval. Donc de deux choses l'une, ou Jordan Bardella est idiot, parce qu'effectivement, son parti n'est absolument pas prêt à gouverner, ou alors, il calcule, parce qu'il sait très bien que Emmanuel Macron ne dissoudra pas l'Assemblée nationale dans la mesure où il ne veut pas, ça c'est moi qui le pense, hein, mais j'en suis convaincu que Emmanuel Macron ne veut pas rester dans l'histoire comme l'homme qui a ouvert les portes du pouvoir au Rassemblement national. Et donc Bardella fait ce calcul, à mon avis. De toute façon, Macron ne le fera pas. Et moi, en promettant ça, je peux mobiliser une partie de l'électorat, celui dont on parlait au début de l'émission, c'est-à-dire celui qui ne se déplace pas pour les Européennes en disant « de toute façon, ça change rien à ma vie », en disant « ah ouais, mais quand même, là, peut-être que si on est très nombreux à voter Rassemblement National, on va pouvoir dégager la majorité d'Emmanuel Macron, et donc vraiment tourner une page ». Et donc, je pense que c'est ce ressort-là qu'il exploite, tout en sachant très bien que ça ne se fera pas.
Oui. Louis, ça serait tout à fait exceptionnel que ça puisse se produire, d'une part. Et deuxièmement, il n'y a rien de garanti, effectivement, si jamais il y a des élections législatives. Ça risque d'être, pardon du terme, mais une boucherie pour tout le monde.
Alors oui, il y a eu un sondage là-dessus en décembre. Les Républicains ont commandé à l'Ipsos un sondage qui a été révélé par l'Obs, je crois, qui faisait une projection en cas de dissolution sur les législatives. Et le Rassemblement national, alors le sondage donnait une fourchette de députés, c'est très compliqué de faire des projections législatives parce que c'est par circonscription, c'est pas proportionnel. Donc les sondeurs, d'ailleurs, se sont plantés en 2022, ont sous-estimé le corps du RN, surestimé celui des macronistes. Mais bref, que disait ce sondage ? Bah que dans la fourchette des députés RN, si c'est la fourchette haute, ils ont la majorité absolue, c'est pas hors de portée. C'est-à-dire que Jordan Bardella, en disant ça, est sûr d'une chose, c'est que son nombre de députés, 89 actuellement, progressera. Oui. Ça, c'est certain, enfin, tous les sondages le disent, sa popularité le dit, la popularité de Marine Le Pen le dit, les députés RN sont à peu près sûrs de revenir plus nombreux. Mais pourquoi faire ? Alors, Jordan Bardella peut avoir un intérêt personnel, Marine Le Pen lui a promis le poste de Premier ministre, sauf que s'il y a une dissolution, que le RN remporte législatif, c'est quand même le président de la République qui choisit le Premier ministre, en tenant compte de ce résultat. Donc peut-être que Bardella rêve de Matignon avant même 2027, date à laquelle Marine Le Pen lui a promis. Mais la raison pour laquelle Emmanuel Macron ne le fera pas, c'est que ce sondage disait aussi que ce serait une boucherie, effectivement, pour la majorité, et que la gauche s'en sort pas tellement bien non plus. Hein. Il n'y a aucune raison que Jean-Luc Mélenchon améliore le nombre de ses troupes en cas de dissolution. Bon, on est à peu près certain qu'il n'y a qu'un seul vainqueur, c'est le Rassemblement national. Donc pour Jordan Bardella, ça ne coûte pas plus cher d'appeler à une dissolution, en sachant effectivement très bien que ça n'a quasiment aucune chance d'aboutir. Et on voit mal, en plus, Emmanuel Macron, s'il prend une raclée aux Européennes le 9 juin, qu'il a les Jeux Olympiques avec les projecteurs du monde entier fin juillet, organiser des élections législatives légèrement périlleuses dans l'espace-temps qui sépare à supposer qu'on arrive à les organiser, voilà, je crois que c'est à peu près le scénario apocalyptique pour lui. Il serait la fin de son mandat tout de suite, en quelque sorte.
Oui, ça paraît assez probable. Et, par ailleurs, avec qui, comme disait Guillaume, avec qui gouverner? Parce que Jordan Bardella ou Marine Le Pen, Premier ministre, d'accord? Et est-ce qu'ils ont suffisamment de personnel, je dirais, pour occuper les fonctions essentielles du pouvoir?
Je pense qu'ils n'y ont même pas encore pensé. C'est-à-dire que c'est plus un chiffon qu'ils agitent pour mobiliser leur électorat, comme le disait Guillaume, c'est exactement ça. Ouais. Et surtout, Jordan Bardella n'a aucun intérêt à envier Matignon. Quand on voit Gabriel Attal, on regarde sa cote de popularité, on voit combien de points il a perdu depuis qu'il est à Matignon et qu'il est parti du ministère de l'Éducation. Bon, c'est un peu une machine à essorer. Pour un parti dont l'argument principal, c'est de dire « on a essayé la droite, on a essayé la gauche, on n'a pas essayé le RN, votez pour nous ». Donc, s'ils prennent le pouvoir à 2 ans et demi l'élection présidentielle, ça tombe un peu à l'eau. En revanche, une question qui se pose, si jamais on peut penser à une dissolution, ce que je ne crois pas personnellement, à part effectivement si on a une motion de censure peut-être, oui. Là où il risque de faire de très bons scores, c'est que dans le camp présidentiel, qui repart chez les députés de la majorité? Moi, je pose la question parfois quand je prends un café avec certains, je dis bon, s'il y a une dissolution, vous repartez? Et la plupart disent bah non, on n'a plus envie. Qu'en face, on a des jeunes du Rassemblement national qui arpentent le terrain depuis 5 ans, qui sont très présents en circonscription, qui font des vide-greniers, qui sont là partout, et qui, eux, n'ont qu'une envie, c'est d'accéder au pouvoir. Donc la boucherie s'explique aussi par ça, c'est qu'en face, il y a des gens qui n'ont plus envie d'être à l'Assemblée nationale, parce que c'était des semaines d'ennui, ils sont fait marcher dessus par l'exécutif, donc il y a un peu une perte de sens du mandat, là où le RN s'en servirait comme tremplin.
Alors, en dehors d'une dissolution prononcée juste après les élections européennes, qui paraît guère possible et probable surtout, il y a quand même l'hypothèse qui a été évoquée, notamment des Républicains, de déposer une motion de censure qui pourrait faire mouche après les Jeux. Après les Jeux.
Et, avec un texte qui pourrait servir de prétexte, entre guillemets, qui en général, dont on ne parle jamais, c'est le projet de loi de règlement. Donc, en fait, c'est pour valider, ratifier les comptes du pays, de l'année. Ouais. Sauf que c'est dans ce texte que le gouvernement va inscrire que le déficit sera pire que prévu, que la croissance sera peut-être pas aussi forte que prévu. Bref, ça peut donner matière aux oppositions à se coaliser pour dire ce sont des comptes insincères, vous n'avez pas tenu vos promesses, vous avez menti aux Français, on imagine déjà le débat. Et donc, servant d'appui au dépôt d'une motion de censure. Et on sait que si les Républicains, c'est le point d'appui qui manque pour qu'il y ait une motion de censure, puisque si la gauche la vote et que le Rassemblement national la vote, il y aura une majorité à l'Assemblée pour faire tomber le gouvernement. Ça n'arrivait qu'une fois sous la Ve République, c'était en 62 et c'était Georges Pompidou. Je ne suis pas sûr que Gabriel Attal veuille être le deuxième Premier ministre après Georges Pompidou à être victime de ça, même si Georges Pompidou a ensuite été appelé à de très hautes fonctions et a été renommé dans la foulée par le général de Gaulle.
Jusqu'en 1968. Ça pourrait lui donner des idées.
C'est vrai.
Sauf que le président de la République ne sera plus là.
Quoi qu'il arrive. Il ne peut plus.
Alors, nous allons passer à notre petit jeu préféré, celui des coups de griffe et des coups de cœur. Guillaume, alors, aujourd'hui, on commence par le coup de griffe, peut-être.
On commence par le coup de griffe, oui. Moi, le coup de griffe, c'est vraiment... je suis très choqué devant le témoignage d'un maire, M. Cohen, maire de Mions, qui est une ville près de Lyon, qui a fait l'objet d'une espèce de campagne d'un antisémitisme insupportable, avec des menaces de mort, des menaces de décapitation. Et finalement, il a choisi de démissionner parce qu'il dit « la justice ne suit pas ». Je faisais allusion à cette personne qui menace de le décapiter. La personne est convoquée par la gendarmerie et s'en sort avec un rappel à la loi. Et pour le reste, les poursuites ont été abandonnées. Il y a une forme de résignation de la justice face à ces violences que je trouve extrêmement choquantes.
Oui. Et un commentaire sur le fonctionnement judiciaire qui pourtant a obtenu des moyens supplémentaires de la part du gouvernement, mais c'est une question de volonté, c'est une question de formation, c'est une question d'état d'esprit.
Bien sûr, on connaît la formation d'une partie de nos magistrats. Il y a un vrai problème politique, il faut le regarder en face. Et il y a surtout, en l'occurrence, un vrai problème de démobilisation pour nos maires. On sait à quel point aujourd'hui une grande partie des maires ne veulent pas se représenter, sont accablés à la fois par les charges administratives qui sont les leurs, les lourdeurs, y compris judiciaires, qu'ils affrontent, et cette nouvelle violence, cette brutalisation de la vie publique qui les touche de plein fouet. Donc ça, c'est quelque chose de très inquiétant, parce que c'est quand même le tissu de notre démocratie. Les maires, ce sont ceux qui sont au contact du terrain et ils n'ont plus envie d'aller comme ça au combat.
Coup de cœur.
Le coup de cœur, alors, le coup de cœur, c'est un débat. Alors, c'était un peu organisé par la concurrence, mais le site du Figaro l'a retransmis, donc je peux quand même en parler. C'était un débat organisé par un débat politique, organisé pas par une chaîne de télévision, mais par le MEDEF, qui, la semaine dernière, je crois que c'était jeudi, a invité les principales têtes de liste à venir s'exprimer sur leur programme et sur des sujets intéressants, comme par exemple l'inflation normative venant de l'Europe. Et j'ai trouvé que c'était un modèle d'exercice démocratique. Alors évidemment, c'était un peu long, ça a duré un peu plus de 2 heures. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à garder un téléspectateur aussi longtemps, mais ils étaient tous là, ils ne s'interrompaient pas. C'était respectueux, c'était concret, parce qu'encore une fois, il y avait des vrais sujets, et ça prouve qu'on n'est pas condamné à l'invective et qu'il peut y avoir des débats qui soient constructifs, et ça, je pense que c'est assez encourageant. Et puis, voir Manon Aubry faire l'apologie du business au MEDEF, j'ai trouvé que c'était plutôt rassurant.
Vous l'avez regardé ?
Non,
pas tout,
parce que c'était long.
D'accord. Alors Jean, votre coup de griffe.
Ah, mon coup de griffe est un coup de griffe de banlieusard, parce qu'on nous a bloqué la 13. Mais derrière le blocage de la 13, qui personnellement me handicape beaucoup, il y a ce problème de la déliquescence.
Donc la 13, c'est la route de Normandie.
La route de Normandie, bon. C'est un cas assez particulier parce qu'il y a un glissement de terrain à cet endroit près de Saint-Cloud. Enfin, c'est un endroit que je connais bien puisque le normal supérieur dans lequel j'étais élève était tout près. Mais passons là-dessus. Simplement, tout ça est le symptôme d'une déliquescence de notre réseau routier qui est quelque chose que je pense beaucoup d'entre vous ici ont vécu, enfin que je vis moi aussi dans la banlieue qui est la mienne, où on a de plus en plus des trous, des fissures, etc. Et on sait, toutes les enquêtes le montrent, qu'il y a une véritable remise en question de la qualité de ces transports routiers. Pour l'instant, ça n'a pas énormément d'influence sur les accidents, mais c'est quelque chose de très grave et qui vient en fait du manque de moyens alloués au département pour justement gérer ce réseau routier, notamment secondaire. Il y a un véritable problème de rééquilibrage des bénéfices dus au transport routier vers les départements, une fronde des départements, des associations contre l'État, en réalité. Et il y a vraiment quelque chose. C'est pas si anecdotique que ça, parce que c'est le genre de problème qui alimente le mécontentement des citoyens et leur rupture vis-à-vis des
élites. Qui alimente le vote populiste.
Exactement.
Voilà. Votre coup de cœur.
Mon coup de cœur, il est un petit peu décalé aussi, ce serait pour la cantatrice Barbara Hendricks, qu'on a connue.
Qui était en 1989 sur la place de la Concorde.
Voilà, qui était aux obsèques de François Mitterrand en 1996, et qui a fait une interview dans Le Monde dans laquelle elle disait à quel point elle était heureuse d'avoir rencontré la France après avoir vécu la ségrégation raciale aux États-Unis. Et ça m'a semblé intéressant de rappeler, j'allais dire en historien, mais que notre pays, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, notamment du côté de la gauche, de l'extrême gauche, n'est pas un pays de racisme systémique, mais au contraire un pays d'accueil et un pays dans lequel une Afro-Américaine comme Barbara Hendricks se sent beaucoup mieux que dans son pays d'origine où elle a vécu dans les années 50 et 60 cette ségrégation. Ça m'a semblé un témoignage intéressant, un petit rappel quand même que finalement la France, c'est pas si mal.
Ah bah, qui va vous contredire. Louis, alors.
Coup de griffe. La semaine dernière, Gabriel Attal a beaucoup célébré ses 100 jours à Matignon.
Oui.
Alors qu'on lui avait rien demandé. Enfin, c'est-à-dire que les Français n'ont pas défilé dans la rue pour dire « Alors, qu'est-ce que vous avez fait en 100 jours ?» Donc, au-delà de l'exercice un petit peu autocentré, de célébration, le problème, c'est qu'il n'avait pas grand-chose à dire. Et que donc, à sa place, à la place de ses communicants, qui ont une place très importante dans son cabinet, bah peut-être qu'il aurait fallu ne rien faire, continuer à en tout cas travailler au sujet urgent qui se pose à la France en ce moment, parce que en fait vous vous mettez en risque en termes de communication politique quand vous créez vous-même un rendez-vous que pas grand monde n'attend et qu'en plus vous n'avez pas grand-chose à dire comme bilan, bah c'est périlleux, d'autant que on va pas lui le reprocher d'avoir pas changé la France en 3 mois. C'est normal, en bout de 100 jours on peut pas tout faire. Il faut peut-être en finir avec ce mythe des 100 jours, que ce soit pour les présidents ou les premiers ministres. Non, on ne change pas un pays vieux de plusieurs siècles en 100 jours, c'est comme ça, c'est normal.
On a envie de lui dire, tu parles, tu agis.
Exactement, exactement. Je pense que c'est l'état d'esprit de la population.
Alors, et le coup de cœur, alors ?
Coup de cœur, alors je ne sais pas si vous avez vu la série La Fièvre, c'est la dernière série de Canal+.
Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait vu, mais racontez.
Eh bien, pour ceux qui la... Je la recommande au demeurant, parce que c'est plutôt une bonne série, malgré des dialogues parfois un petit peu artificiels, mais mon coup de cœur n'est pas précisément pour la série, plutôt pour des travaux qui ont été faits à partir de la série par la Fondation Jean Jaurès, qui est un think tank de centre-gauche, oui. En gros, mais qui a réuni divers auteurs, dont par exemple le sondeur Jérôme Fourquet, qu'on connaît bien au Figaro, dont l'écrivain Giuliano D'Ampoli, dont parlait Guillaume, qui ont chacun regardé la série. C'est une série dans laquelle, en fait, qui joue en fait avec les, qui raconte plutôt une France que nous connaissons qui est crispée par les passions identitaires. Oui. Donc ça part d'un fait où un joueur de football noir donne un coup de tête à son entraîneur blanc en le traitant de sale blanc. Et à partir de là, comme vous pouvez l'imaginer, tout s'enflamme sur les réseaux sociaux, dans les médias, en politique. Donc c'est assez bien fait, parce que ça part quand même de situations qu'on connaît de plus en plus en France. Et ce livret de la Fondation Jean Jaurès a rassemblé des contributions de différents auteurs qui, de leur point de vue, ont analysé ce que racontait la série, plus ou moins bien, sur notre paysage politique, sur les réseaux sociaux, sur où nous en sommes en France par rapport à ces débats-là. Donc, quand une série de Canal+, donne un peu à penser, à réfléchir et à tirer des enseignements politiques, ça m'a paru intéressant. Et en plus, le livret est disponible gratuitement et facilement sur Internet. Donc, n'hésitez pas à vous plonger dedans.
Alors, il y a de plus en plus de séries, il faut le dire, aujourd'hui, qui décryptent ou racontent la vie politique en France, mais aussi ailleurs. Les tempéraments, les caractères, c'est devenu maintenant à l'égal de la littérature.
Ouais. Même si on n'égalera jamais à la Maison Blanche la grande série d'Aaron Sorkin dans la fin des années 90.
L'auteur de La Fièvre est le même que
le Baron Noir.
Que le Baron Noir,
qui était aussi
politique très assez fine.
À l'origine une BD d'ailleurs, une bande dessinée.
Cadmérade incarnant un personnage politique
très fine,
machiavélique et tourmenté.
Voilà. On ne citera personne.
Non.
Si, c'était Julien Drey.
Pardon.
Non, ça ressemblait un peu à Julien Drey, dont il a été le collaborateur.
Ouais. Alors, Célestine, votre coup de griffe.
Griffe. Alors, mon coup de griffe, c'est un coup de griffe inquiet sur la situation à Mayotte, sur l'opération Mayotte Place Nette qui a été lancée la semaine dernière.
Wambushu.
Oui, je préférais que vous le disiez parce que je ne savais pas le dire.
C'est du Swahili.
et qui consiste à un renfort de 400...
Parle Kidogo Swahili. Kidogo, ça veut dire un peu.
Bon, j'ai pas vos connaissances linguistiques, mais c'est une opération qui a assisté le renfort de 400 gendarmes et policiers sur l'île pour essayer de pacifier la situation qui est forcément toujours instable, voire explosif, avec une immigration et un afflux continu des Comores et de l'Afrique. L'inquiétude que j'ai, effectivement, c'est que là, c'est un peu un répit, c'est un peu une bouffée d'oxygène parce qu'il y a du monde, mais l'inquiétude que j'ai, c'est qu'est-ce qui va se passer pendant les JO, notamment, puisque tous les renforts seront mobilisés sur Paris. S'il se passe quelque chose, si ça éclate à Mayotte, on leur a fait comprendre qu'ils n'auront pas de renforts. Qui plus est, il y a le projet de loi constitutionnel qui doit passer en Conseil des ministres le 22 mai, donc un mois tout pile là sur la question de la suppression du droit de sol, ce qui va être très important parce que c'est pas encore mis à l'agenda parlementaire, on sait pas quand ce sera mis à l'agenda parlementaire, on sait que ça va fracturer dans la majorité, donc c'est très stratégique en termes de calendrier, et en face il y a le désespoir de milliers de Mahorais qui attendent justement un texte et qui vont être suspendus à partir du 22 mai à ça. Et l'été, effectivement, s'il ne se passe rien à partir du 22 mai, ça peut être explosif.
101e département, il faut le dire. Votre coup de cœur.
Et mon coup de cœur, c'est un coup de cœur sur un sujet qui va beaucoup nous mobiliser dans les prochaines semaines sur la question du projet de loi fin de vie. On peut être content de revoir l'Assemblée nationale revivre après des semaines d'ennui avec un projet de loi. Des auditions sont menées à partir d'aujourd'hui par une commission spéciale. À cela près qu'il manque des soignants qui n'ont pas été auditionnés, qui n'ont pas été conviés, qui se sont émus de cela dans une lettre qui a été envoyée, qui a pu consulter Le Figaro, exactement. Et c'est un sujet qui est si important qu'on ne peut que regretter que des soignants ne soient pas pris en compte, des gériatres notamment, puisqu'il y a quand même un quart des Français qui meurent en EHPAD aujourd'hui en France. Il y a des psychiatres qui ne sont pas pris en compte. Donc tout un tas d'organisations qui doivent être liées au débat, mais qui ne le sont pas. Et donc ça va prendre du temps, il faut que ça en prenne, et il ne faut surtout pas tomber dans un calcul électoral d'un calendrier pressé et serré avant l'élection européenne.
On va reparler de ce projet de loi fin de vie, puisque normalement il va arriver en séance le 27 mai, et puis sans doute après l'été au Sénat. C'est un sujet évidemment très sensible.